Aux printanières, chapitre 39. En 1840, le théâtre de Wiesbaden était un édifice des plus laids, et sa troupe, par sa médiocrité prétentieuse et misérable, par sa routine banale et voulue, ne s'élevait en rien au-dessus du niveau des théâtres allemands de l'époque. Le théâtre de Karlsruhe et sa troupe, sous la direction du célèbre De Vrient, peut être regardé comme le modèle du genre. Derrière la loge retenue par « Son Excellence Madame von Polossow » et Dieu sait comment le garçon avait pu louer cette loge. Il est évident qu'il ne s'était pas avisé d'offrir un pourboire au Stade Director. Toujours est-il que derrière cette loge se trouvait un petit salon entouré de divans. Avant d'entrer dans sa loge, Maria Nikolaevna pria Sanine de lever les écrans qui séparaient la loge du théâtre. « Je ne veux pas qu'on me voie, » dit-elle. « Ils viendraient tous m'ennuyer l'un après l'autre. » Elle fit placer Sanine à côté d'elle, le dos à la salle, afin que la loge semblât vide. L'orchestre joua l'ouverture des Noces de Figaro. Le rideau se leva. On donnait ce soir-là une de ces pièces allemandes dans lesquelles les auteurs, qui avaient de la lecture mais pas de talent, dans une langue choisie mais morte, traitaient diligemment mais sans adresse une idée profonde ou palpitante d'intérêt, représentant le conflit tragique et exhalant un ennui asiatique, comme il existe un choléra asiatique. Maria Nikolaevna écouta patiemment la moitié de l'acte, mais quand le jeune premier ayant appris la trahison de son amoureuse, ce jeune premier était revêtu d'une redingote couleur cannelle, avec des bouffants et un col de peluche, un gilet rayé avec des boutons de nacre, un pantalon vert à sous-pieds de cuir laqué et des gants blancs de peau de chamois. Quand ce jeune premier, appuyant les deux poings sur sa poitrine et écartant les coudes en avant, formant un angle aigu, se mit à hurler comme un chien, Maria Nikolaevna n'y put plus tenir. « Le dernier acteur français !» s'écria-t-elle avec indignation. « Dans la dernière ville de province, joue mieux et avec plus de naturel que cette célébrité allemande !» Madame Polossow passa dans le salon attenant à la loge. « Venez ici, » dit-elle à Sanine, indiquant de la main la place vacante à côté d'elle sur le divan. « Venez, nous causerons. » Sanine obéit. Maria Nikolaevna le regarda. « Vous êtes vraiment obéissant. Votre femme aura une vie facile avec vous. »« Cet imbécile » continua-t-elle en désignant du bout de son éventail l'acteur qui hurlait toujours. Il jouait le rôle du gouverneur dans une famille. « Me rappelle ma jeunesse. Moi aussi, j'ai été amoureuse de mon gouverneur. C'était ma première, non, ma seconde passion. La première fois, j'étais amoureuse du frère convert du couvent de Don. J'avais 12 ans. Je ne le voyais que le dimanche. Il portait une soutanelle de velours, se parfumait d'eau de lavande et se frayait un passage dans l'assemblée en tenant l'encensoir. Et il disait aux dames en français « « Pardon, excusez. » Il ne levait jamais les yeux et il avait les cils longs comme cela. Maria Nikolaevna montra son petit doigt à Sanine et avec l'ongle du pouce indiqua la moitié de sa longueur. « Quant à mon gouverneur, » continua Madame Polossow, « il s'appelait Monsieur Gaston. Je dois vous dire qu'il était très savant et très sévère. Il était suisse. » Il avait une tête très énergique, des favoris noirs comme la poix, un profil grec et des lèvres qui semblaient coulées en bronze. Je le craignais. C'est le seul homme que j'ai craint depuis que je suis au monde. Il était le gouverneur de mon frère, qui est mort depuis, et il s'est noyé. Une bohémienne m'a prédit aussi une mort violente, mais ces prédictions sont des enfantillages, je n'y crois pas. « Pouvez-vous vous figurer mon mari armé d'un stylet ?»« La mort violente peut survenir autrement, » remarqua Sanine. « Bêtise que tout cela, niaiserie. Vous êtes superstitieux ?»«
Je ne le suis pas du tout. Ce qui doit arriver arrivera. »
Monsieur Gaston demeurait chez nous et occupait la chambre au-dessus de la mienne. Souvent, la nuit, je me réveillais et je l'entendais marcher au-dessus de ma tête. Il se couchait tard et mon cœur se pâmait alors de vénération ou d'un autre sentiment. Mon père savait à peine lire et écrire, mais il nous a donné une bonne instruction. « Vous ne vous doutez pas que je sais un peu de latin ?»«
Vous savez le latin ?»«
Oui, moi. C'est Monsieur Gaston qui me l'a enseigné. J'ai lu avec lui l'Énéide.
C'est bien ennuyeux, quoiqu'il y ait de beaux passages.
Vous rappelez-vous quand Didon et Énée sont dans la forêt ?»«
Je me le rappelle, je me le rappelle, » dit précipitamment Sanine.
Il avait depuis longtemps oublié son latin et n'avait conservé qu'une idée très vague de l'Énéide. Maria Nikolaevna le regarda selon son habitude un peu de côté et en dessous.
« N'allez pas en conclure que je suis très savante. Eh, mon Dieu, non, je ne suis pas savante du tout et je ne possède aucun talent. C'est à peine si je sais écrire. Et je ne suis pas capable de lire à haute voix. Je ne sais pas jouer du piano, ni dessiner, ni coudre. Voilà comment je suis. Rien de plus, rien de moins. »
Elle écarta les bras.
« Je vous raconte tout cela, » continua-t-elle. « D'abord pour ne pas écouter ces imbéciles. »
Elle indiqua la scène, où à ce moment, à la place du jeune premier, hurlait l'actrice, aussi les coudes en avant.
« Et secondement, parce que je suis en arrière avec vous. »
« Vous m'avez raconté hier votre vie. »«
Vous avez bien voulu m'interroger, » dit Sanine.
Maria Nikolaevna se tourna brusquement vers lui et dit « Et vous, vous ne tenez pas à savoir quelle femme je suis ? D'ailleurs, cela ne m'étonne pas, » ajouta-t-elle en s'appuyant de nouveau contre les coussins du divan. « Un homme qui est à la veille de faire un mariage d'amour et après un duel, peut-il penser à autre chose ?»
Maria Nikolaevna resta pensive et se mit à mordiller le manche de son éventail, de ses dents, grandes, mais égales et blanches comme le lait. Sanine sentit de nouveau dans sa tête ce brouillard dont il ne parvenait pas à se débarrasser depuis 2 jours. Cette conversation à demi-voix, presque comme un murmure, l'excitait et achevait de le troubler. « Quand donc tout cela finira-t-il ? » se demanda Sanine. Les hommes faibles ne dénouent jamais eux-mêmes la situation. Ils attendent toujours que le dénouement vienne de lui-même. Quelqu'un éternua sur la scène. Les auteurs avaient introduit cet éternuement en guise de moment ou d'élément comique. C'était d'ailleurs le seul élément comique de toute la pièce, et les spectateurs leur en surent gré et se mirent à rire. Cette hilarité ne fit qu'irriter encore plus Sanine. Il y avait des instants où il ne savait s'il était fâché ou s'il était content, s'il s'ennuyait ou s'il s'amusait. « Oh, si Gemma le voyait !»«
Vraiment, c'est étrange, » dit tout à coup Maria Nikolaevna. « On vous annonce toujours et de la voix la plus calme, « je vais me marier. » Et personne ne songe à vous dire calmement, « je vais me jeter à l'eau. » Et pourtant, où est la différence ? Vraiment, c'est étrange.
Sanine éprouva un sentiment de dépit.
Il y a une grande différence, Maria Nikolaevna. Il y a des gens qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Ils savent nager. Puis, si vous voulez parler de mariage étrange...
Il se tut subitement et se mordit la langue. Maria Nikolaevna donna un petit coup d'éventail dans la paume de sa main.
« Continuez, Dmitri Pavlovitch, continuez. Je comprends ce que vous avez voulu dire. Si nous parlons de mariage, madame, avez-vous pensé, je ne peux pas m'imaginer un mariage plus étrange que le vôtre. Je connais bien votre époux, je le connais depuis l'enfance. Voilà ce que vous avez voulu dire, vous qui savez nager. »
« Permettez, » dit Sanine.
« N'ai-je pas raison ? Avouez que j'ai deviné, reprit Maria Nikolaevna avec insistance. Regardez-moi bien en face et dites-moi que je n'ai pas deviné juste.
Sanine ne savait plus que faire de ses yeux.
Oui, j'avoue que vous avez deviné, puisque vous le voulez absolument, dit-il enfin.
Maria Nikolaevna branla la tête.
Oui, oui. Et vous vous demandiez, vous qui savez nager, quelle est la raison de cet acte étrange de la part d'une femme qui n'est ni pauvre ni bête, et pas trop mal. Peut-être ne vous souciez-vous pas de le savoir, mais c'est égal. Je vous en dirai la raison. Seulement pas tout de suite. Après la fin de l'entracte, je crains qu'on ne vienne nous déranger.
Maria Nikolaevna n'avait pas achevé sa phrase que la porte de la loge s'ouvrit à moitié et une face rouge, couverte de sueur huileuse, encore jeune mais déjà édentée, encadrée de longs cheveux lisses, avec un nez aplati, flanquée d'énormes oreilles comme des ailes de chauve-souris, portant des lunettes d'or sur de petits yeux curieux et obtus et un pince-nez par-dessus les lunettes, apparut dans l'entrebâillement de la porte en un sourire répugnant. Cette tête salua et un coup musculeux saillit de l'ouverture. Maria Nikolaevna lui fit signe avec son mouchoir.
« Je n'y suis pas. Ich bin nicht süß aus. Kitsch, kitsch !»
La tête sembla surprise, eut un sourire forcé et dit comme en sanglotant, pour imiter Litz dont autrefois il léchait les pieds.
« Sehr gut, sehr gut !»
et disparut. « Qu'est-ce que c'est que cette apparition ?» demanda Sanine.
« Ça, c'est le critique de Wiesbaden, homme de lettres, ou l'on-laquais, valet à gages, si vous voulez. Il est payé par l'entrepreneur du théâtre, et il est obligé de trouver tout ce qu'on joue admirable, splendide, bien qu'il regorge de fiel qu'il n'ose pas répandre. » Il aime par-dessus tout papoter, et j'ai peur qu'il publie dans tout le théâtre que j'y suis. Après tout, cela m'est égal. »
L'orchestre joua une valse, et le rideau se leva de nouveau. Sur la scène, les grimaces et les hurlements reprirent de plus belle.
« Eh bien, » dit Maria Nikolaevna en se laissant choir sur le divan. « Puisque vous êtes captif et obligé de rester auprès de moi au lieu d'admirer votre fiancé, non, non, n'écarquillez pas les yeux, ne vous fâchez pas. Je vous comprends et je vous ai déjà promis de vous laisser aller où bon vous plaira. Maintenant, écoutez ma confession. Voulez-vous savoir ce que j'aime le plus au monde ?»«
La liberté, » dit Sanine.
Maria Nikolaevna posa sa main sur la main du jeune homme. « Oui, Dmitri Pavlovitch, » dit-elle très sérieusement, et sa voix vibra avec un accent de sincérité irrécusable. « La liberté avant tout et par-dessus tout. Et ne croyez pas que je m'en fasse un mérite, il n'y a là rien de méritoire. Mais c'est ainsi, et il en sera ainsi jusqu'à ma mort. Il faut croire que dans mon enfance, j'ai vu l'esclavage de trop près et j'en ai trop souffert. » Puis M. Gaston, mon gouverneur, a contribué aussi à m'ouvrir les yeux. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai épousé Polossov. Avec lui, je suis libre, tout à fait libre, comme l'air, libre comme le vent. Et je le savais avant de me marier. Je savais qu'avec un tel mari, je serais une libre cosaque.
Elle se tut et jeta de côté son éventail.
Je vous dirai encore une chose. Je ne crains pas de réfléchir un peu. C'est amusant. Nous avons une intelligence pour penser. Mais je ne réfléchis jamais aux conséquences de mes actes. Et quand il le faut, je me laisse aller et ne m'inquiète plus de rien. J'ai encore un dicton favori. Cela ne tire pas à conséquence. Ici-bas, je n'ai pas de compte à rendre. Et là-haut, elle leva le doigt vers le plafond. « Eh bien, là-haut, qu'on fasse de moi ce qu'on voudra. Lorsqu'on me jugera là-haut, moi, je ne serai plus moi. Vous m'écoutez ? Je ne vous ennuie pas. »
Sanine était assis, penché en avant. Il leva la tête.
« Cela ne m'ennuie pas du tout, dit-il, et je vous écoute avec curiosité. Seulement, je vous avoue que je me demande pourquoi vous me racontez tout cela. »
Maria Nikolaevna se rapprocha légèrement de lui sur le divan.
« Vous vous le demandez ? Avez-vous si peu de pénétration ou tant de modestie ?»
Sanine leva la tête encore un peu plus haut.
« Je vous raconte tout cela, continua Madame Polossov d'une voix calme, mais qui n'était pas d'accord avec l'expression de son visage.
« Parce que vous me plaisez beaucoup.
Oui, ne faites pas l'étonner, je ne plaisante pas. Je serais très peinée si vous gardiez de moi, après notre rencontre, une mauvaise impression, ou même, sans être mauvaise, une impression fausse. C'est pour cette raison que je vous ai amenée ici, que je reste seule avec vous, et que je vous parle avec cette sincérité.
Oui, oui, sincèrement, je ne mens pas.
Remarquez, je sais que vous aimez une autre femme et que vous allez vous marier. Vous voyez bien que je suis désintéressée. Pourtant, voilà une bonne occasion pour vous de dire « Cela ne tire pas à conséquence. »
Elle rit, mais s'interrompit brusquement au milieu d'un éclat de rire et resta immobile, comme si ses paroles l'étonnaient elle-même. Puis, dans ses yeux si gais d'ordinaire, si hardis, passa quelque chose qui ressemblait à de la timidité et même à de la tristesse.
« Serpent ! Oh, elle est un serpent !» pensa Sanine. « Mais quel beau serpent !»«
Donnez-moi ma lorgnette !» dit tout à coup Maria Nikolaevna. « Je désire voir cette scène. Est-il possible que la jeune première soit aussi laide qu'elle semble d'ici ? Vraiment, à la voir, on croirait que le gouvernement l'a choisie dans un but moral pour ne pas séduire les jeunes gens. »
Sanine lui remit la lorgnette. Elle la prit, puis vivement et de ses deux mains effleura les doigts du jeune homme.
« Ne prenez pas cet air sérieux, lui dit-elle. Vous savez, je ne me laisse pas mettre des chaînes. Mais aussi, je n'en mets à personne. J'aime la liberté, et je ne reconnais pas de devoir pour les autres, pas plus que pour moi. Et maintenant, tirez-vous un peu de côté et écoutons la pièce. »
Maria Nikolaevna regarda la scène à travers sa lorgnette, et Sanine suivit son exemple. Assis à côté d'elle, dans la demi-obscurité de la loge, il respirait. Respirait involontairement la chaleur et le parfum de ce corps de femme luxuriant. Et involontairement encore, il réfléchissait à tout ce qu'elle lui avait dit pendant toute cette soirée, et surtout pendant les dernières minutes.
Chapitre 40. Le drame dura encore toute une heure, mais Maria Nikolaevna et Sanine, au bout d'un moment, cessèrent de regarder la scène. Ils recommencèrent à parler, et toujours dans le même sens. Seulement, cette fois, Sanine se montra beaucoup moins taciturne. Il était mécontent de lui-même et de Maria Nikolaevna. Il s'efforça de lui prouver que ses théories ne valaient rien, comme si Maria Nikolaevna tenait à des théories. Sanine fit grand plaisir à Madame Polossov en réfutant les arguments de la jeune femme.
« S'il discute, se dit-elle, c'est qu'il capitule, ou capitulera. Il a mordu à l'hameçon, il s'assouplit, il perd de sa sauvagerie. »
Elle répliquait, riait, convenait avec lui qu'il avait raison, restait absorbée, et tout à coup reprenait l'offensive. Et pendant ce temps, leurs visages se rapprochèrent, et les yeux du jeune homme ne se détournaient plus des yeux de la jeune femme, qui errait, se promenait sur ses traits, et Sanine souriait en réponse. Poliment, il est vrai, mais il souriait. Elle était ravie de le voir discuter des questions abstraites, discourir de l'honneur dans les relations intimes, du devoir, de la sainteté de l'amour et du mariage. C'est un lieu commun. Toutes ces abstractions sont bonnes, et très bonnes pour le début, comme point de départ.
Les hommes de l'intimité de Maria Nikolaevna assuraient que lorsque dans cet être vigoureux et fort pointait la modestie, la tendresse et la pudeur virginale, Dieu sait d'où ces vertus lui venaient. Alors, oui, alors seulement, les choses prenaient une tournure dangereuse. L'entretien de Sanine et de Maria Nikolaevna prenait cette tournure fâcheuse. Il aurait ressenti un grand mépris de soi s'il avait pu un moment se concentrer en lui-même, mais il n'eut le loisir ni de se concentrer ni de se juger. Maria Nikolaevna ne perdait pas non plus son temps. Et tout cela parce qu'elle trouvait Sanine très bien. Involontairement, on se dit « Comment savoir de quoi peut dépendre notre perte ou notre salut ?» Enfin, la pièce finit. Maria Nikolaevna pria Sanine de lui mettre son châle et resta immobile pendant qu'il enveloppait dans les plis moelleux du cachemire des épaules vraiment royales. Elle prit le bras du jeune homme et laissa presque échapper un cri. Derrière la porte de la loge se tenait, avec un air de revenant, Daenov, et par-dessus son dos, le vilain museau du critique de Wiesbaden guettait la sortie de Maria Nikolaevna. Le visage huileux de l'homme de lettres rayonna de malice. « Me permettez-vous, madame, de faire avancer votre voiture ?» demanda le jeune officier à madame Polossov, avec un tremblement de colère mal dissimulé dans la voix. « Non, merci, » répondit-elle. « Mon laquais s'en occupe. Restez !» ajouta-t-elle d'une voix impérative. Et elle sortit vivement en entraînant Sanine. « Allez-vous-en, au diable ! Qu'avez-vous besoin d'être toujours sur mes talons ?» cria Daenov au critique. Il avait besoin de déverser sur quelqu'un sa colère. « Sergout ! Sergout ! » murmura le critique, et il disparut. Le valet de Maria Nikolaevna, qui l'attendait dans le vestibule, en un clin d'œil trouva la voiture. Elle s'y blottit lestement. Sanine sauta après elle. La portière était à peine refermée que madame Polossov partit d'un éclat de rire. « De quoi riez-vous ? » demanda Sanine. « Oh, excusez-moi, je vous en prie, mais il m'est venu à l'esprit que Daenov pourrait vous provoquer encore une fois à cause de moi. N'est-ce pas drôle ?»« Vous le connaissez intimement ?» demanda Sanine. « Ce gamin, il sert à faire mes commissions, ne vous en inquiétez pas. » « Je ne m'en inquiète nullement. » Maria Nikolaevna soupira. « Ah, je sais bien que cela ne vous inquiète pas. Écoutez pourtant, vous êtes si gentil que vous ne refuserez pas ma dernière prière. N'oubliez pas que dans 3 jours je pars pour Paris et vous retournez à Francfort. Nous reverrons-nous jamais ? En quoi puis-je vous être agréable ? Vous savez sans doute monter à cheval ? « Oui, madame. Eh bien, voici de quoi il s'agit. Demain matin, nous ferons une promenade à cheval et nous irons hors la ville. Nous aurons d'admirables chevaux. À notre retour, nous terminerons notre affaire. Et amen. Ne me répondez pas que c'est un caprice et que je suis folle. C'est peut-être la vérité. Mais dites-moi tout de suite, j'accepte. » Elle tourna vers Sanine son visage. Il faisait obscur dans la voiture, mais les yeux de Maria Nikolaevna brillèrent dans la nuit. « Bien, j'accepte, » dit Sanine avec un soupir. « Ah, vous avez soupiré !» s'écria Maria Nikolaevna en contrefaisant Sanine. « Voilà ce que c'est. Le bouchon est tiré, il faut boire le vin. Mais non, non, vous êtes charmant, vous êtes un brave garçon, et ma promesse, je la tiendrai. « Voici ma main, sans gants, ma main droite, celle qui conclut les affaires. Prenez-la et croyez à ce serment de main. Je ne sais pas trop quelle sorte de femme je suis, mais je suis un honnête homme et l'on peut traiter des affaires avec moi. » Sans bien se rendre compte de ce qu'il faisait, Sanine porta cette main à ses lèvres. Maria Nikolaevna retira lentement sa main et se tut. Elle resta silencieuse jusqu'à ce que la voiture stoppa devant l'hôtel. Elle se disposa à descendre. Sanine sentit sur sa joue un attouchement rapide et brûlant. L'avait-il rêvé ? « À demain !» murmura Madame Polossov dans l'escalier, éclairée par les quatre bougies du candélabre que le portier tout chamarré d'or avait saisi entre ses mains dès qu'il l'avait aperçu. Elle tenait les yeux baissés. « À demain !» En rentrant dans sa chambre, Sanine trouva sur sa table une lettre de Gemma. Il eut un mouvement d'effroi, mais il sourit aussitôt pour se dissimuler à lui-même cette impression. La lettre de Gemma ne contenait que quelques lignes. Elle était heureuse d'apprendre que l'affaire avait si bien commencé. Elle exhortait Sanine à la patience, l'assurait que tout irait bien et d'avance se réjouissait de son retour. Sanine trouva cette lettre un peu sèche, mais il prit quand même une feuille de papier et une plume. Puis il les jeta de côté. « À quoi bon écrire? Je retournerai demain. Il en est temps. Il en est grand temps. » Il se coucha aussitôt et s'efforça de s'endormir tout de suite. S'il avait essayé de veiller, il aurait sans doute pensé à Gemma, mais sans savoir pourquoi, il avait honte de penser à elle. Sa conscience n'était pas tranquille. Mais il la calmait en se disant que le lendemain tout serait fini pour toujours, qu'il se délivrerait pour toujours de cette folle et qu'il oublierait toutes ses intrigues. Les hommes faibles, quand ils se parlent à eux-mêmes, emploient volontiers des mots énergiques. Et puis, cela ne tire pas à conséquence. Chapitre 41. Telles étaient les réflexions que faisait Sanine en se couchant. Mais quelles furent ses impressions quand le lendemain matin, Maria Nikolaevna heurta à sa porte avec le manche de corail de sa cravache et qu'il la vit sur le seuil de sa chambre, tenant d'une main la traîne de son amazone bleu sombre, avec un petit chapeau d'homme posé sur les lourdes tresses de ses cheveux, le voile flottant sur l'épaule et un sourire provoquant sur les lèvres, dans les yeux, sur tout le visage. Que se dit Sanine en ce moment ? « Eh bien, êtes-vous prêt ?» lui cria gaiement Madame Polossov. Sanine boutonna sa redingote et prit sans mot dire son chapeau. Maria Nikolaevna lui jeta un regard joyeux, lui fit un petit signe de tête et descendit en courant l'escalier. Il la suivit à la hâte. Les chevaux attendaient déjà dans la rue devant le perron. Ils étaient trois. Une cavale pur sang d'un roux doré, avec des naseaux secs et découvrant les dents, des yeux noirs à fleur de tête, des jambes de cerf, un peu grêles, mais élégantes et chaudes comme le feu. Elle était destinée à Maria Nikolaevna. Le cheval de Sanine était vigoureux, large, un peu lourd, sans marque. Le troisième cheval était pour le groom. Maria Nikolaevna sauta légèrement sur son coursier. La cavale piaffa, se tourna de tous côtés, relevant la queue et ployant la croupe, mais Maria Nikolaevna, excellente écuyère, la maintint sur place. Elle voulait dire adieu à Polossov, qui sortit sur le balcon coiffé de son fez et dans sa robe de chambre ouverte. Il agita son mouchoir de batiste, sans sourire, mais au contraire en se renfrognant. Sanine se mit en selle, et Maria Nikolaevna, du bout de sa cravache, esquissa un salut à l'adresse de Polossov, puis cingla d'un coup l'encolure ambrée et plate de son cheval. La cavale se dressa sur ses jambes de derrière, bondit en avant, et partit d'une allure élégante et matée, frémissant dans toutes ses fibres et portant sur le mort, humant l'air et reniflant avec impétuosité. Sanine suivait en regardant l'Amazone. Sa taille fine et flexible se balançait d'aplomb avec souplesse et harmonie, étroitement soutenue et dégagée par le corset. Madame Polossov retourna la tête et du regard appela Sanine. Ils cheminèrent de front. « Voyez comme il fait beau !» s'écria-t-elle. « Je vous le dis pour la dernière fois avant de nous séparer. Vous êtes adorable !» et vous ne vous repentirez pas d'être venu. » En prononçant ces mots, elle les accompagna de plusieurs mouvements de tête affirmatifs, comme pour renforcer la signification de ses paroles et les rendre plus pénétrants. Maria Nikolaevna semblait si heureuse que Sanine en fut étonnée. Son visage avait cette expression posée que prennent les enfants quand ils sont très, très sages. Les chevaux allèrent au pas jusqu'à la barrière, assez rapprochés, puis ils partirent d'un grand trot. Le temps était beau, un vrai ciel d'été. Le vent venait à leur rencontre et bruissait et sifflait agréablement aux oreilles. Ils éprouvaient un sentiment de bien-être. La conscience d'une vie jeune et puissante s'emparait d'eux dans cette course libre et fougueuse. Ce sentiment grandissait de minute en minute. Maria Nikolaevna ralentit l'allure de son cheval et se remit au pas. Sanine suivit son exemple. « Voilà pourquoi il vaut la peine de vivre !» s'écria l'Amazone avec un soupir profond et heureux. « Quand on réussit à faire ce qui semblait impossible, il faut s'en saouler jusque-là. » Elle passa rapidement la main sous son menton. « Et comme nous nous sentons meilleurs! Regardez comme je suis bonne en ce moment! Il me semble que j'embrasserai le monde entier. » « Non, pas tout entier. En voilà un que je n'embrasserai pas. » Du bout de sa cravache, elle indiqua un vieillard, pauvrement vêtu et qui suivait le bord de la route à côté d'eux. « Mais je suis prête à le rendre heureux. Voici pour vous, hé !» cria-t-elle en allemand. Elle jeta sa bourse aux pieds du vieillard. On ne connaissait pas encore les porte-monnaies et le petit filet tomba lourdement sur le chemin avec un bruit sec. Le passant, étonné, s'arrêta. Maria Nikolaevna éclata de rire et mit son cheval au galop. « Êtes-vous toujours aussi gai quand vous allez à cheval ?» demanda Sanine à Madame Polossov quand il l'eut rejointe. Maria Nikolaevna tira brusquement les rênes. Elle n'arrêtait jamais autrement son cheval. « Je voulais simplement échapper aux remerciements. Les remerciements gâtent mon plaisir. Ce n'est pas pour son plaisir que je lui ai laissé ma bourse, mais pour le mien. Pourquoi me remercierait-il ? « Qu'est-ce que vous m'avez demandé tout à l'heure ? Je n'ai pas entendu. »« Je vous ai demandé... J'ai voulu savoir pourquoi vous êtes si gai aujourd'hui. » Mais soit que Maria Nikolaevna de nouveau n'eut pas entendu la question, soit qu'elle jugea inutile de répondre, elle dit « Savez-vous, ce groom qui se balance derrière nous m'agace. Comment nous débarrasser de lui ?» Elle sortit vivement un carnet de sa poche. « Je vais lui remettre une lettre à porter à la ville. Non, cela ne va pas. Ah, cette fois j'ai trouvé. N'est-ce pas un traiteur là-bas devant vous ?» Sanine regarda dans la direction indiquée. « Oui, c'est un restaurant, il me semble. Parfait, je vais lui dire de rester là et de boire de la bière jusqu'à notre retour. » « Mais qu'est-ce qu'il pensera ? Et qu'est-ce que cela peut nous faire ? Puis il ne pensera rien du tout, il boira de la bière et voilà tout. Allons, Sanine !» Elle l'appelait pour la première fois Sanine tout court. « En route, au trot !» Quand les cavaliers se trouvèrent devant le restaurant, Maria Nikolaevna appela le groom et lui donna ses ordres. Le groom, anglais de naissance et de tempérament, porta sans dire un mot la main à la visière de sa casquette, sauta de cheval et prit l'animal par la bride. « Maintenant, nous sommes des oiseaux libres !» cria Maria Nikolaevna. « Où irons-nous ? Au nord ? Au midi ? À l'occident ? À l'orient ? Regardez, je suis comme le roi de Hongrie lors de son couronnement !» Elle indiqua du bout de sa cravache les quatre points cardinaux. « L'univers est à nous ! Eh bien, voyez ces montagnes ! Ah, quelle forêt ! Là-bas, dans les monts, Indieberg, Indieberg, Wodie, Freiheit, Trond. Dans les monts, où règne la liberté. » Maria Nikolaevna quitta la route et galopa dans un étroit chemin à peine frayé qui semblait en effet conduire directement à la montagne. Sanine s'élança sur ses pas. Chapitre 42. Les trois chemins devint bientôt un sentier à peine visible et finit par s'effacer complètement, coupé par un fossé. Sanine était d'avis de rebrousser chemin, mais Maria Nikolaevna se récria Non, non, je veux aller à la montagne. Allons à travers champs, tout droit, comme les oiseaux volent. »
Elle obligea son cheval à sauter par-dessus le fossé. Sani en fit autant. De l'autre côté s'étendait une prairie, d'abord sèche, ensuite humide, et qui finit dans un marécage. On voyait l'eau sourdre partout et former par places des mares. Maria Nikolaevna conduisit exprès son cheval en plein dans le marais et se mit à rire en criant « Faisons l'école buissonnière! Vous savez ce que c'est que de chasser au moment des eaux printanières ?» demanda-t-elle à Sanine.
« Je le sais, » répondit le jeune homme.
« J'avais un oncle, » continua-t-elle, « qui aimait beaucoup la chasse. Je l'accompagnais souvent. Au printemps, c'est adorable. »
Nous aussi, aujourd'hui, nous nous retrempons dans les eaux printanières.
Seulement, je vois que vous êtes un vrai Russe et vous voulez épouser une Italienne. Enfin, c'est votre sort.
Tiens, encore un fossé. Hop, hop, hop.
La cavale franchit le ravin et le chapeau de Maria Nikolaevna s'envola. Ses cheveux se déroulèrent sur son dos. Sanine voulut sauter à bas de son cheval pour ramasser le chapeau, mais l'Amazone le retint.
« Ne descendez pas de cheval, je le reprendrai moi-même. »
Elle se pencha très bas tout en restant en selle, accrocha le voile avec le manche de sa cravache et ramassa son chapeau. Elle le remit sans relever ses cheveux et reprit sa course en criant « Hip, hip !» Sanine galopait à côté de Maria Nikolaevna. Avec elle, il sautait les fossés, les haies, les ruisseaux. Il montait et descendait, gravissant la montagne, redescendant le versant opposé, et tout le temps, il gardait les yeux attachés sur le visage de sa compagne. Quel éclat ! Tout ce visage s'épanouissait. Les yeux se dilataient, avides, clairs, sauvages. Les lèvres s'ouvraient, les narines palpitaient et humaient l'air avidement. Maria Nikolaevna regardait droit devant elle, embrassant tout l'horizon du regard. Son âme semblait s'emparer de tout ce qu'elle voyait, prenait possession de la terre, du ciel, du soleil et même de l'air. Elle n'avait qu'un regret. Pourquoi rencontrait-elle si peu d'obstacles? Elle voudrait vaincre encore, encore.
« Sanine ! » cria-t-elle. « C'est tout à fait comme dans la Lénore de Burger. Seulement, vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas mort. Moi, je suis bien vivante. »
Ce n'était plus une Amazone qui galopait. C'était un jeune centaure féminin, demi-animal, demi-dieu. Et cette terre docile et bien disciplinée s'étonne devant la bacchante qui la piétine. Enfin, Maria Nikolaevna arrêta son cheval, trempé de sueur et couvert de boue. La cavale fléchissait sous l'écuyère et le puissant et lourd étalon de Sanine perdait son souffle.
« Eh bien !»
« C'est beau ?» demanda Maria Nikolaevna dans un murmure d'extase.
« C'est beau !» répondit avec transport Sanine. Son sang bouillonnait aussi.
« Attendez, vous verrez ce qui nous attend encore !»
Elle lui tendit la main, son gant était déchiré.
« Je vous ai dit que je vous amènerai dans la forêt, vers les monts, vers les montagnes. »
En effet, couronnée par un mont altier, la montagne se dressait à 200 pas du lieu où se trouvaient les sauvages cavaliers.
« Regardez, voici le chemin. Rajustons-nous un peu et en route. Mais, au pas, il faut permettre à nos chevaux de respirer un peu. »
Ils se remirent en marche. D'un grand coup de main, Maria Nikolaevna rejeta en arrière ses cheveux. Elle examina ses gants et les retira.
« Mes mains sentiront le cuir, » dit-elle.
« Mais cela nous est égal !»
Elle souriait, et Sanine souriait aussi. Cette course échevelée les avait rapprochés et unis.
« Quel âge avez-vous » demanda-t-elle tout à coup.
« 22 ans.
« Est-ce possible? Moi aussi j'ai 22 ans.
C'est un bon âge. Additionnez toutes nos années et vous serez encore loin de la vieillesse.
Pourtant il fait chaud. Dites-moi, est-ce que je suis rouge ?»
Comme une fleur de pavot.
Elle passa son mouchoir sur son visage. Dès que nous serons dans le bois, il fera frais. C'est un vieux bois, comme qui dirait un vieil ami. Avez-vous des amis ?
Sanine réfléchit un instant.
Oui, j'en ai, mais peu. De vrais amis, je n'en ai pas.
Moi, j'ai de vrais amis, mais ils ne sont pas vieux. Ce cheval, par exemple, c'est aussi un ami, comme il me porte délicatement. Ah oui, l'on est très bien ici. Est-il possible que je parte pour Paris après-demain ?
Est-ce possible ? Répéta Sanine.
Et vous ? Vous partirez pour Francfort ?
Oh, moi, certainement, je retournerai à Francfort.
Eh bien, allez-y, je vous donnerai ma bénédiction.
Mais aujourd'hui, c'est notre jour, à nous, rien qu'à nous.
Les chevaux avaient atteint la lisière du bois et ils pénétrèrent dans la forêt. L'ombre fraîche les enveloppa doucement de toutes parts.
Oh, mais c'est le paradis ici !
Cria Maria Nikolaevna.
Allons au plus profond. Plongeons-nous dans cette ombre, Sanine.
Les chevaux avançaient lentement dans les profondeurs de la forêt, se balançant et reniflant. Le sentier qu'ils suivaient changea subitement de direction et s'engagea dans un défilé très étroit. L'odeur de la bruyère, des fougères, de la résine de pin, de la fane de l'année précédente montait du sol. Des crevasses de rochers bruns s'exhalaient une fraîcheur pénétrante. Des deux côtés du chemin s'élevaient des monticules couverts de mousse verte.
Arrêtons-nous ! Cria Maria Nikolaevna. Je veux me reposer sur ce velours. Aidez-moi à descendre de cheval.
Sanine mit pied à terre et courut auprès de Madame Polossov. Elle s'appuya sur ses épaules, sauta vivement à terre et s'assit sur un tertre de mousse. Sanine resta debout devant elle, tenant les deux chevaux par la bride. Maria Nikolaevna leva les yeux sur lui.
« Sanine, savez-vous oublier ?»
Sanine se rappela ce qui s'était passé la veille en voiture.
« Est-ce une question ou un reproche ? » demanda-t-il. « De ma vie, je n'ai adressé un reproche à quelqu'un. »
« Croyez-vous aux ensorcellements ?»«
Comment ?»«
Par des enchantements, comme disent chez nous les moujiks dans leurs chansons. »«
Ah, voilà ce que vous voulez dire. »«
Oui, c'est cela. J'y crois. Y croyez-vous ?»«
L'ensorcellement, l'enchantement, » répéta Sanine. « Tout est possible dans ce monde. Autrefois, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. » « Je ne me reconnais plus. »
Maria Nikolaevna réfléchit un instant, puis regarda autour d'elle. « Il me semble que je connais cet endroit. Sanine, regardez s'il n'y a pas une croix rouge sur le tronc de ce grand chêne derrière. Y est-elle ? »
Sanine s'approcha de l'arbre.
« Oui, il y a une croix. » Maria Nikolaevna sourit. « Ah bon, je sais maintenant où nous nous trouvons. » Nous ne nous sommes pas écartés de notre route. Qui est-ce qui cogne comme ça ? Un bûcheron ?
Sanine regarda dans la direction du bruit.
Oui, un homme coupe les branches mortes.
Je veux mettre mes cheveux en ordre. On peut me voir et me juger.
Elle souleva son chapeau et se mit à natter ses longues tresses, gravement et sans prononcer une parole. Sanine restait toujours debout devant elle. Les formes élégantes de la jeune femme se dessinaient nettement sous les plis sombres du drap, auxquels, ici et là, se collaient des brins de mousse. Un des chevaux, tout à coup, se secoua derrière Sanine. Le jeune homme tressaillit de la tête aux pieds. Tout se brouillait devant ses yeux. Ses nerfs étaient tendus comme des cordes de violon. Il disait la vérité en assurant qu'il ne se reconnaissait plus. En effet, il était ensorcelé. Tout son être était possédé d'une seule pensée, d'un seul désir. Maria Nikolaevna jeta sur lui un regard pénétrant. « Maintenant tout est en ordre, » dit-elle en remettant son chapeau. « Pourquoi restez-vous debout ? Asseyez-vous ici. Non, attendez, ne vous éloignez pas.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Un bruit sourd roula par-dessus les cimes des arbres, ébranlant l'air dans le bois.
Est-ce possible ? Le tonnerre ?
On dirait, en effet, que c'est le tonnerre.
Mais c'est une véritable fête ! Quelle fête ! C'est la seule chose qui nous manquait !
Pour la seconde fois, un bruit sourd retentit et s'abattit en longs roulements.
Bravo ! Bis !
Vous rappelez-vous ce que je vous disais hier de l'Énéide ? Eux aussi, ils ont été surpris par l'orage dans une forêt.
Maintenant, sauvons-nous !
Elle se releva d'un bond.
Amenez-moi mon cheval. Présentez-moi votre main.
Ainsi, je ne suis pas lourde. Elle s'élança en selle, légère comme un oiseau. Sanine remonta à cheval.
Vous voulez rentrer ?
Demanda-t-il d'une voix mal assurée.
Rentrer ?
Dit-elle en accentuant lentement les syllabes tout en rassemblant les brides.
Suivez-moi !
Cria-t-elle à Sanine d'un ton de commandement. Elle rejoignit le sentier, et après avoir passé la croix rouge, elle descendit dans un chemin enfoncé, arriva à un carrefour, tourna à droite et de nouveau gravit la montagne. L'Amazone savait évidemment où elle allait. Le chemin qu'elle avait choisi pénétrait toujours plus dans les profondeurs de la forêt. Maria Nikolaevna ne parlait pas, ne regardait pas son compagnon. Elle avançait d'un air impérieux et Sanine la suivait docilement, sans une étincelle de volonté dans son cœur qui se pâmait. Une pluie fine commença à tomber. Maria Nikolaevna accéléra la marche de son cheval et Sanine en fit autant. Enfin, à travers la verdure sombre des sapins, Sanine aperçut, à l'abri du rocher gris, une misérable hutte avec une porte dans le mur formée de branches entrelacées. Maria Nikolaevna obligea son cheval à se frayer un passage entre les sapins, puis elle sauta à terre et courut devant l'entrée de la guérite. Alors, se tournant vers Sanine, elle murmura « Aînée !» 4 heures plus tard, Maria Nikolaevna et Sanine, accompagnées du groom qui dormait en selle, rentraient dans leur hôtel à Wiesbaden. Polossov vint au-devant de sa femme en tenant à la main la lettre qu'il avait écrite au régisseur, mais, ayant regardé avec attention Maria Nikolaevna, son visage exprima du mécontentement et il dit à demi-voix « Est-il possible que j'ai perdu mon pari ?» Pour toute réponse, Madame Polossov haussa les épaules. Le même jour, 2 heures plus tard, Sanine, dans la chambre de Maria Nikolaevna, se tenait devant elle, éperdue, comme un homme qui sombre.
« Alors, où vas-tu ? »
lui demanda-t-elle.
« À Paris ou à Francfort ?»«
Je vais où tu seras, et je resterai près de toi jusqu'à ce que tu me chasses. » répondit-il avec désespoir en baisant les mains de sa dominatrice. Maria Nikolaevna retira ses mains, les posa sur la tête du jeune homme et empoigna les cheveux de ses 10 doigts. Elle caressait et tournait lentement ses pauvres boucles, puis se redressa toute droite avec un sifflement de serpent triomphant sur les lèvres, tandis que ses yeux larges et clairs, jusqu'à devenir blancs, n'exprimaient que le rassasiement et la férocité impitoyable de la victoire. Le vautour, quand il dépèce sa proie, a ces yeux-là. Chapitre 43. Voilà les souvenirs qui assaillirent Sanine quand, en rangeant ses papiers dans le silence du cabinet, il retrouva la petite croix de Grenat. Tous ces événements se retracèrent nettement et avec suite dans sa mémoire. Mais quand il arriva au moment où il se revit adressant à Madame Polossov des supplications humiliantes, se laissant fouler aux pieds, quand il revécut ses jours d'esclavage, il se détourna des images évoquées et ne voulut plus se souvenir. Ce n'est pas que sa mémoire lui fit défaut. Oh non, il savait, il ne savait que trop bien tout ce qui s'était passé depuis ce moment, mais la honte l'étouffait.
même en ce jour, après tant d'années écoulées, il a peur de ce sentiment de mépris pour lui-même, qui reviendra, il le sait, noyer sous sa vague toutes les autres impressions, s'il n'ordonne pas à sa mémoire de se taire. Mais il a beau se détourner de ses souvenirs, il ne parvient pas à les effacer complètement. Il se rappelle la vilaine lettre, fausse et pleurnichante, qu'il a envoyée à Gemma et pour laquelle il n'a pas reçu de réponse. Après une pareille trahison, pouvait-il la revoir, retourner chez elle? Non, non. Il avait encore assez de conscience et d'honnêteté pour ne pas commettre une telle action. Il avait perdu toute confiance en lui, tout respect de soi-même. Il ne pouvait plus rien garantir. Sanine se rappela encore comment, après, oh, honte, il envoya le valet de Polossov à Francfort pour prendre ses effets. Et lui, il avait peur. Il ne pensait qu'à une chose, partir le plus vite possible pour Paris. Pour Paris. Il revit comment, sur l'ordre de Maria Nikolaevna, il fit la cour à son mari, et l'aimable avec Daenov, qui avait au doigt une bague de fer comme celle que Maria Nikolaevna avait donnée à Sanine. Ensuite vinrent des souvenirs plus tristes, plus honteux encore. Un matin, le garçon lui remit une carte de visite portant le nom de Pantaleone Cipatolla, chanteur italien de S.A.R., le duc de Modène. Et Sanine refusa de voir le vieillard, mais il ne put échapper à une rencontre dans le couloir. Il revoit le visage irrité de l'ex-chanteur, dont le toupet se hérissait encore et ses yeux brillaient comme des tisons. Et il entend encore ses exclamations et ses malédictions. « Maledizione !» Ces mots affreux retentissent encore à ses oreilles. « Codardo ! Infame et traditore ! » Lâche, traître infâme. Sanine ferme les yeux et secoue la tête. Il regarde à droite, à gauche, mais malgré lui, il se voit de nouveau dans la dormeuse, sur l'étroite banquette de devant. Sur les sièges du fond sont confortablement assis Maria Nikolaevna et Polossov. Quatre chevaux emportent joyeusement la voiture, loin de Wiesbaden. À Paris! À Paris! Polossov mange une poire que Sanine lui a préparée, et Maria Nikolaevna le regarde, lui, son cerf, avec ce sourire qu'il connaît déjà, le sourire du propriétaire, du seigneur. Mais, oh Dieu, là, au coin de la rue, un peu après la sortie de la ville, n'est-ce pas de nouveau Pantaleone? Et qui est avec lui? Emilio! Oui, ce beau garçon enthousiaste qui lui était si fort attaché. Y a-t-il longtemps que ce jeune cœur adorait en lui un héros, un idéal? Et maintenant son pâle et beau visage, si beau que Maria Nikolaevna l'a remarqué et se met à la portière pour le regarder. Ce visage est plein de rage et de mépris. Les yeux, qui ont tant de ressemblance avec d'autres yeux, s'attachent sur Sanine, et les lèvres se serrent, puis s'ouvrent brusquement pour lancer l'injure. Et Pantaleone étend la main et désigne Sanine. À qui? À Tartaglia qui est là, lui aussi, et Tartaglia aboie contre Sanine, et l'aboiement de cet honnête chien résonne à ses oreilles comme une injure intolérable. Quelle honte! Enfin, la vie de Sanine à Paris, et toutes les humiliations, toutes les viles tortures de l'esclave, à qui l'on ne permet ni d'être jaloux ni de se plaindre, et qu'on abandonne un jour comme un vêtement usé. Ensuite vient le retour dans la patrie, la vie brisée, vidée, le petit train des petites choses, l'amère repentir inutile, et l'oubli non moins amer et non moins inutile. C'est le châtiment secret, mais continuel, de chaque instant, comme une douleur sourde mais inguérissable, l'acquittement sou par sou d'une dette dont on ne peut même pas mesurer l'étendue. Le calice est rempli.
Assez.
Comment se fait-il que la petite croix que Gemma a donnée à Sanine soit encore là? Pourquoi ne l'a-t-il pas rendue? Pourquoi jusqu'à ce jour ne l'a-t-il pas retrouvée?
Sanine resta longtemps, bien longtemps, absorbée dans ses réflexions. Et déjà assagi par l'expérience de l'âge, il ne comprend pas comment il a pu abandonner Gemma, qu'il a aimée si tendrement et avec tant de passion, pour une femme qu'il n'a jamais aimée. Le lendemain, Sanine étonna fortement ses amis et ses relations en leur annonçant qu'il partait pour l'étranger. Dans le monde, cette nouvelle intrigua beaucoup. Sanine quittait Saint-Pétersbourg au milieu de l'hiver, quand il venait de meubler un appartement confortable et de prendre un abonnement à l'opéra italien, où devait chanter la Patti en personne. Oui, la Patti elle-même. Les amis de Sanine recherchèrent les causes de son départ, mais les hommes n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper des affaires d'autrui. Et le jour où Sanine partit pour l'étranger, une seule personne l'accompagna à la gare. C'était son tailleur, un Français, qui avait l'espoir de faire régler une note en souffrance pour un saut en barque en velours noir, et tout à fait chic.
Chapitre 44. Sanine avait annoncé à ses amis qu'il partait pour l'étranger, mais il ne leur avait pas dit où il allait. Il se rendit directement à Francfort. Le quatrième jour, il arriva dans cette ville où il n'était pas revenu depuis 1840. L'hôtel du Cygne Blanc était toujours à la même place, mais n'était plus un hôtel de premier ordre. La Zelle, la rue principale de Francfort, avait peu changé, mais il ne restait plus trace de la rue où se trouvait jadis la confiserie Roselli. Sanine erra comme un fou dans ces lieux si familiers autrefois et où il ne reconnaissait plus rien. Les anciennes maisons avaient disparu pour faire place à de hautes constructions et à d'élégantes villas. Même le jardin public, où Sanine avait eu un rendez-vous avec Gemma, s'était agrandi et avait changé au point que Sanine se demanda s'il ne s'était pas trompé de jardin. Comment se retrouver? À qui s'adresser? 30 ans s'étaient écoulés. Les personnes que Sanine avait interrogées n'avaient jamais entendu le nom de Roselli. Le maître d'hôtel lui avait conseillé de prendre des renseignements à la bibliothèque publique, où il trouverait de vieux journaux. Mais comment ces vieux journaux lui fourniraient-ils les indications qu'il cherchait? Personne ne put le lui expliquer. Dans son désespoir, Sanine demanda des nouvelles de M. Kleuber.
Oh, celui-là, tout le monde le connaissait.
Mais ces renseignements n'éclairèrent pas Sanine sur ce qu'il désirait savoir. L'élégant commis, sa fortune faite, s'était livré à des spéculations, avait fait faillite et était mort en prison. Ces nouvelles, d'ailleurs, laissèrent Sanine très indifférent. Et il commençait à se dire qu'il avait agi précipitamment en venant comme cela à Francfort. Lorsqu'un jour, en feuilletant un livre d'adresse, il tomba sur le nom de Von Daenhoff, major en retraite. Il s'empressa de prendre une voiture et de se faire conduire à l'adresse indiquée, sans savoir si ce Daenhoff était l'officier qu'il avait connu, ou, dans le cas où ce serait bien lui, s'il pourrait lui dire ce que la famille Roselli était devenue. Mais le noyé s'accroche à une paille. Sanine trouva le major von Daenhoff chez lui, et dans cet homme à tête blanche, il reconnut d'emblée son ancien adversaire. Daenhoff le reconnut également, et fut très content de le voir. Cela lui rappelait sa jeunesse et ses aventures. Sanine put apprendre enfin de lui que la famille Roselli avait depuis longtemps émigré en Amérique, à New York, que Gemma avait épousé un négociant, et que le major connaissait un marchand de Francfort qui devait avoir l'adresse du mari de Gemma, car il avait des relations avec l'Amérique. Sanine pria le major Daenhoff de lui procurer cette adresse. Et, oh joie, son ancien adversaire la lui rapporta. Monsieur Jérémias Locum, New York, Broadway, numéro 501. Il est vrai qu'elle datait de 1863. « Espérons, s'écria Daenhoff, que notre beauté de Francfort est encore de ce monde et qu'elle demeure toujours à New York. » Puis, baissant la voix, il ajouta « À propos, et cette dame russe, vous savez qui je veux dire, qui était à Wiesbaden, Madame von Bozolov, elle vit toujours ?»«
Non, répondit Sanine, il y a longtemps qu'elle est morte. »
Daenhoff baissa les yeux, mais voyant que Sanine détournait la tête et se renfrognait, il ne dit plus rien et se retira. Le jour même, Sanine envoya une lettre à Madame Gemma Slocum à New York. Il lui dit qu'il lui écrivait de Francfort, où il était venu à sa recherche, qu'il comprenait parfaitement qu'il n'avait pas le droit d'espérer une réponse, car il ne méritait pas son pardon. Il n'avait qu'un espoir, c'est qu'au sein de son bonheur, elle avait depuis longtemps oublié jusqu'à son existence. Il ajouta qu'il s'était décidé subitement à lui écrire à la suite d'une circonstance qui avait évoqué devant lui les images du passé avec une force extraordinaire. Il raconta sa vie solitaire, sans famille, sans joie, et la pria de ne pas se méprendre sur les motifs qui l'avaient déterminé à écrire cette lettre. Il ne voulait pas emporter dans la tombe la conscience qu'une faute, qu'il avait cruellement expiée, n'avait pas été pardonnée. Il l'implorait de lui écrire seulement deux mots pour lui dire comment elle se trouvait dans la nouvelle patrie qu'elle s'était choisie. « En m'envoyant ne fût-ce qu'un mot, » ajoutait Sanine en terminant sa lettre, « vous ferez une bonne action, digne de votre belle âme, et je vous en serai reconnaissant jusqu'à mon dernier soupir. Je suis actuellement à l'hôtel du Cygne Blanc, à Francfort, et j'attendrai ici votre réponse jusqu'au printemps. » Il souligna ces derniers mots. Sanine expédia sa lettre, et l'attente commença. Il passa 6 semaines à l'hôtel, sans sortir de sa chambre et ne voyant personne. Ses amis de Russie ne pouvaient pas lui écrire, n'ayant pas son adresse, et Sanine s'en félicitait. Il savait que lorsqu'il recevrait une lettre, il saurait de qui elle vient. Il lisait du matin au soir, non des journaux, mais des livres sérieux, des livres d'histoire. Ces lectures prolongées, ce silence, cette vie repliée sur soi-même, répondaient à son état d'esprit. Il savait gré à Gemma de la lui avoir indirectement procurée. Mais est-elle vivante? Lui répondra-t-elle? Enfin, la lettre si longtemps attendue arriva, portant un timbre américain et venant de New York. La suscription de l'enveloppe était d'écriture anglaise. Sanine ne reconnut pas cette écriture, et son cœur se serra. Il avait peur d'ouvrir cette lettre. Il regarda la signature. « Gemma ». Il fondit en larmes. Ce nom, écrit au bas de la page, sans être accompagné du nom de famille, était un gage de pardon. Il déplia une fine feuille de papier à lettres bleues. Une photographie tomba sur le plancher. Il la releva précipitamment et resta ébahi. Gemma. Gemma jeune, comme il l'a connue il y a 30 ans. Les mêmes yeux, la même bouche, le même type de visage. Sur l'envers de la carte était écrit « Ma fille Mariana ». La lettre était simple et pleine de bonté. Gemma remerciait Sanine de ne pas avoir douté d'elle, d'avoir eu confiance en elle. Elle ne lui cacha pas qu'elle avait cruellement souffert après la fuite de son fiancé, mais elle ajouta qu'elle avait regardé et regarderait toujours sa rencontre avec Sanine comme un bonheur, car cette rencontre l'avait empêchée d'épouser Kleber, et de cette façon, bien qu'indirectement, avait été la cause de son mariage avec M. Slocum, avec qui, depuis 28 ans, elle vit heureuse et dans l'abondance. Leur maison est connue de tout New York. Gemma annonça ensuite qu'elle avait 5 enfants, 4 fils et une fille de 18 ans qui est déjà fiancée. Elle lui envoie la photographie de sa fille, parce qu'au dire de tous, elle ressemble à sa mère. Gemma avait réservé les nouvelles tristes pour la fin de sa lettre. Frau Lenore était morte à New York, où elle avait accompagné sa fille et son gendre. Elle a vécu assez longtemps pour pouvoir jouir du bonheur de ses enfants et élever ses petits-enfants. Pantaleone voulait les accompagner en Amérique, mais il était mort la veille du jour fixé pour le départ de Francfort. Et Emilio, notre cher, incomparable Emilio, il est mort de la belle mort pour la liberté de sa patrie, en Sicile, où il est allé dans les rangs des mille avec le grand Garibaldi à sa tête. Nous avons pleuré chaudement la mort de notre cher frère, mais en la pleurant, nous en étions fiers, et nous en serons fiers toujours. Sa mémoire nous est sacrée. Sa grande âme désintéressée méritait la couronne du martyr. En terminant sa lettre, Gemma exprimait le regret de savoir que la vie de sa nine avait été si peu satisfaisante. Elle lui souhaitait avant tout la paix de l'âme, et ajoutait qu'elle eût été heureuse de le revoir, bien qu'une telle rencontre fût peu probable. Il est impossible d'exprimer ce que sa nine ressentit en lisant cette lettre. Il n'y a pas de mots pour rendre des sentiments semblables. Ses sentiments sont plus profonds, plus forts, plus vagues que la parole. La musique seule pourrait les exprimer. Sa nine répondit immédiatement et envoya à Mariana Slocum, d'un ami inconnu, comme cadeau de noces, la petite croix de grenat superbement enchâssée de perles fines. Bien que ce présent fût d'une grande valeur, il ne ruina pas sa nine. Pendant les 30 années qui s'étaient écoulées depuis son séjour à Francfort, il avait gagné une fortune considérable. Il revint à Saint-Pétersbourg au commencement du mois de mai, mais pas pour longtemps probablement. On assure qu'il cherche à vendre son domaine, et qu'il pense partir pour l'Amérique.